Bonjour tout le monde, un autre dimanche matin pour étudier ensemble la parole de Dieu, ce beau livre de Daniel. Alors la semaine passée, nous avons vu avec notre frère Célestin, nous avons vu le songe de Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez de ce qu'il a vu? La statue, c'est ça. Et puis avec sa définition, nous avons vu un roi qui était troublé et qui est allé chercher toutes ses ressources pour essayer de trouver, premièrement, connaître le songe, se rappeler du songe et aussi lui donner son explication. Un gros défi pour les sages qui finalement avouent leur incapacité, ils peuvent pas. Le monsieur a oublié son songe. Et, il n'y a aucun humain, comme ils disent, qui soit capable de le faire. Mais il y a un humain qui intervient. C'est Daniel, il intervient. Et de concert avec ses amis, ils les ramassent, ils s'en vont prier, ils vont implorer leur Dieu. Et Dieu accorde la délivrance, tu réponds. Et Daniel est rendu capable d'expliquer le songe et la gloire revient à notre Dieu. Et le roi aussi, face à cette humiliation, on peut le dire, il confesse que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Mais c'est sa première confession, il va avoir d'autres confessions comme ça, on va voir qu'il est... Je me demande s'il est sérieux. Mais à un moment donné, je pense que Dieu va faire son œuvre finale. Il va le convaincre de sa véracité en tant que Dieu. Nous allons demander ce matin continuer l'étude de ce livre. Vous savez qu'il y a plusieurs interventions divines, délivrances dans ce livre-là. Ce matin, c'est l'histoire de la fournaise, les compagnons de Daniel et qui sont jetés dans la fournaise. Vous connaissez l'histoire, mais nous allons regardez tout ça ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans vos études, ou bien durant votre vie chrétienne, dans vos recherches. Dans toutes les générations, Dieu s'est toujours gardé un petit reste, qu'il y ait fidèle. Et dans l'Ancien Testament, c'est vrai, parce qu'il y a toute une liste de personnes. Je vais citer quelques éléments comme ça. Du temps d'Élie, vous savez, vous vous rappelez, Élie, après avoir rasé tous les prophètes Baal, puis il était menacé par la reine, il a pris la fuite, etc. Puis il pensait qu'il était le seul qui était fidèle. Et Dieu le ramène alors, il dit non, mon Élie. Il y a 7000 personnes qui sont restées fidèles dans ce monde idolâtre. On peut le lire dans 1 Roi 18-19. Et aussi, l'apôtre Paul va chercher ce même récit pour montrer qu'il y a toujours un petit reste. Dieu se réserve toujours un reste. Dans la période des rois, l'Israël, en général, ont confondu Israël du Nord et Sud, Royaume du Nord et Royaume du Sud. On n'a pas eu beaucoup de rois fidèles à Dieu, malheureusement. On a vu une quarantaine, disons, de rois qui se sont succédés au trône. Mais quand on regarde dans la Bible, il y a à peu près 4 ou 5 là, qui se sont fait remarquer par leur fidélité. On parle de David, l'homme dont le cœur, selon Dieu, qui avait le cœur selon Dieu. Ézéchias, Josias, Asa. Et aux Josaphat, qui ont juste à un certain moment, qui sont des humains, qui ont eu des points faibles dans leur vie aussi, mais qui se sont donnés à l'Éternel, ils se sont mis à appliquer et dans leur royaume les lois de l'Éternel, à suivre l'Éternel. C'est un petit reste parmi toute cette quantité de rois qui sont restés fidèles au Seigneur. À Babylone, que nous étudions maintenant, c'est un petit reste. Nos trois amis avec Daniel, ce sont des hommes fidèles. Nous allons voir un peu plus ce matin. Un petit reste. Et aussi dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous y avez pensé.
Noé et sa femme.
Oui. Un petit reste. Un petit reste. Une famille qui est sauvée dans le déluge. On va aller l'eau. Lot. Il y a toujours un petit reste. Dieu s'est gardé dans sa grâce, on va dire. Dans sa grâce. Ce n'est pas des hommes sans péché. Ce n'est pas des hommes parfaits. Mais Dieu, dans sa grâce, il les a gardés. Dans le Nouveau Testament aussi, je ne sais pas si vous y avez pensé, Il y a eu à peu près 400 ans de silence où il n'y avait pas eu de prophétie après le retour de l'exil et jusqu'à la venue du Messie. Dieu s'est gardé un petit reste. Et dans ce petit reste-là, qui est-ce qu'on voit? On voit Marie, hein? On voit Joseph, Siméon, Zacharie, Élisabeth, sa femme, Anne, vous vous rappelez, Anne? Et puis, les bergers. C'est pas beaucoup. D'après ce qu'on peut lire dans la Bible, est-ce qu'il y en aurait d'autres que la Bible n'a pas mentionné? Je n'en sais rien, mais la Bible cite vraiment ces personnes-là que nous voyons qui étaient vraiment un petit reste parmi tout ce peuple juif qui attendait le Messie, qui attendait le Messie, qui ont gardé, qui sont restés fidèles à la parole, aux Écritures et à ses promesses. Aujourd'hui, nous allons lire le récit de, comme je l'avais dit tantôt, des trois compagnons de Daniel. Et ça se lit dans le chapitre 3 de Daniel. Prenons le temps de lire Daniel chapitre 3. Et après cela, on pourra passer aux commentaires de ce chapitre-là. Quel récit touchant, émouvant. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, on a vu que la caméra était branchée vraiment sur Daniel. On avait parlé dans le chapitre 2 de Daniel seulement. Et son interprétation des songes, du songe. Mais dans ce chapitre, de façon étrange, le nom de Daniel n'est même pas mentionné. Bon, on ne sait pas pourquoi. Il est quand même à Babylone. On sait qu'il est à Babylone, mais...
Il y a d'autres qui disent qu'il était peut-être en mission.
En mission? En tout cas, le texte ne nous le dit pas. Et que je pense qu'on est capable, on est confortable pour avancer sans avoir cette réponse-là, n'est-ce pas?
Mais il y a peut-être aussi, c'est bon, non, mais il y a des fois, c'est la bonne chose, après, c'est d'éviter le problème. Hein. Mm-hmm. Ça s'en est, c'est en construction, ça va partir là. Ben, je ne dis pas que c'est caché, parce qu'on sait que c'est pas caché. Il y a aussi un temps là, pour dire, regarde, on est loin du problème. Mm-hmm. Là, et l'autre temps pour la confronter.
Okay.
Que, le Seigneur donne ça en même temps. Faut jamais se plier à ça. Mais,
Il y a aussi que ces trois-là étaient affectés au royaume, là, disons. Ils étaient affectés et que Daniel était dans la cour du roi. C'est ce que le texte nous dit, bien entendu. Quand Daniel, après avoir donné l'explication du songe, il a dit, dans ce 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce que dit le texte, et Daniel était dans la cour du roi. C'est tout ce qu'on sait, puis... c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Pardon?
Un intouchable.
Un autre intouchable, c'est ça.
Un exploit.
Voilà. Mais le Saint-Esprit a voulu que ce soit comme ça. On l'admet. C'est l'inspiration de Dieu qui a voulu que le focus du chapitre 3 soit sur ces trois jeunes hommes. Nous l'avons lu, c'est l'histoire de trois hommes braves et courageux, on peut le dire, qui décident de ne pas plier aux ordres, de ne pas se plier aux ordres du roi le plus puissant de la terre. À l'époque, c'était ça. Hein? C'était le roi le plus puissant de la terre, et parce qu'ils ne voulaient pas offenser leur Dieu. Ils ne voulaient pas offenser leur Dieu. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, voilà. Ils ne voulaient pas offenser leur Dieu. Certains seraient sceptiques en lisant ce récit-là. Hein? Mais au moment que ces personnes sceptiques-là comprendront que notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il ne faut pas le limiter, il ne faut pas mettre dans une canette, là. Il est tout-puissant. Il a créé l'univers. Si on comprend cela, on n'a pas de doute là-dessus. Mais il faut se rendre là. Il faut se rendre là, pas juste entendre parler d'un Dieu qui est bien loin dans le ciel. Non, notre Dieu est en action. Il est en action dans notre vie. Il fait des miracles encore. Alors nous, on n'a pas ce problème-là. On croit que le Saint-Esprit l'a inspiré, c'est quelque chose qui s'est passé et Dieu était là à l'œuvre, on le voit.
Un commentaire là-dessus, Isaac,
oui.
C'est que même face à des évidences incroyables, là, il y a des cœurs qui sont endurcis.
Ouais.
C'est comme s'ils sont aveugles, ils ne voient pas.
Ouais. Ouais.
Même si la preuve est comme Jésus, il y a des miracles.
Ouais.
Tout ça, c'est encore vrai aujourd'hui.
C'est encore vrai. C'est encore vrai. Du temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait chercher à trouver la foi en lui, dans toutes ces personnes qui le suivaient. Et à un moment donné, il dit, mais vous me suivez parce que je vous donne à manger, vous cherchez à manger, quelque chose à manger. Mais Jésus-Christ voulait qu'il le cherche pour lui, là, pour Christ, pour croire, qu'ils aient le pardon de leurs péchés, etc., et avoir la foi en Dieu, parce qu'il est venu pour vraiment nous faire connaître Dieu. Et, dans les versets 1 à 7, nous trouvons les détails du projet fou. Je m'appelle ça un projet fou de la part du roi. Et parce qu'il est orgueilleux.
Ouais, on va juste par la répétition du roi Nebuchadnezzar avec mon soit tu vois, ok, d'accord. Il veut vraiment nous faire comprendre
ouais.
que c'est Nebuchadnezzar qui est très orgueilleux,
okay.
plein de sa puissance.
Plus de lui-même.
La répétition à chaque verset, il y a la répétition que le roi a.
Sept fois. Le statut que le roi avait fait élever, qu'il avait enrichi. On répète. C'est une très bonne remarque. Et, compte tenu de la signification du rêve, vous vous rappelez qu'est-ce que Daniel avait expliqué par rapport au rêve? Si on peut se référer dans le verset 37 à 38, que pensez-vous, pour une discussion, de la motivation qui est en arrière de la construction de cette statue? Si vous vous rappelez, on peut peut-être lire les versets 37 à 38. Au roi, ça c'est l'explication de Daniel par rapport au songe qu'il a eu, verset 36 dit, « Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Au roi, tu es le roi des rois. » Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains et en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et qu'il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Je ne pense pas qu'il a oublié ça, lui. Je ne pense pas qu'il a oublié la signification de ce rêve-là.
Et je suis Dieu.
Oui.
Je suis Dieu.
De soi. Je pense que c'est la motivation derrière de toutes ces statues-là pour montrer sa puissance, n'est-ce pas? Oui.
C'est la motivation de toutes personnes
non dégénérées,
de
c'est ça.
La sanctification vise à nous humilier, mais c'est à nous amener à l'étape d'humilité. Là, ça vient par. C'est pas comme aujourd'hui, j'en ai, puis demain. C'est un processus. Nous travaillons même, tu sais. Puis, en réalité, la marque, une des premières marques d'un chrétien, c'est l'humilité. Et puis, l'humilité nous permet d'aimer. On n'est pas humble, on ne peut pas aimer.
Ouais.
La marque du chrétien, c'est l'amour. Donc, c'est pas surprenant que les non-régénérés, puis surtout les gens en puissance, qui ont tous ces pouvoirs-là, soient visibles à tous.
Okay. Le monde n'a pas changé, l'homme n'a pas changé, le cœur de l'homme n'a pas changé, que ce soit sur le temps de Nebuchadnezzar ou pendant le siècle, les siècles, et aujourd'hui encore, quand Jésus-Christ est né, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode. Il avait le pouvoir sur tous les enfants. Là.
C'est déjà là le problème.
Mais tu sais, quand Dieu touche ton cœur, il t'a fait réaliser que tu es un pécheur, que tu as péché. L'humilité, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous.
Ouais.
C'est quelque chose que Dieu transforme par l'évangile dans mon cœur. Puis, tu sais, tu ne peux pas critiquer Nebuchadnezzar pour faire ça, parce qu'on l'aurait tout fait si ça n'aurait pas été.
Exactement.
Kiss the ring, comme on dit en anglais. Viens me voir, kiss the ring, c'est moi le boss. C'est moi le plus riche, c'est moi le plus puissant. Dans la nature de chacun d'entre nous. Puis même, comme personne régénérée, c'est encore là. Parce que même dans l'Église, même avec les chrétiens, les titres sont importants, le statut social est important. Ça ne devrait pas l'être. Mais j'étais assez impliqué dans des organisations chrétiennes pour savoir que c'est important.
C'est important.
Parce qu'on n'est pas encore, on combat encore pour ta chair comme humain.
Non, on est des pécheurs.
Même le pape, je pense qu'on y embrasse la bague.
Les cardinaux aussi.
Encore là.
Mais n'oubliez pas que ces choses-là sont écrites pourquoi? pour nous servir d'exemple. C'est un miroir pour qu'on se voit là-dedans, pour qu'on puisse laisser l'Esprit nous travailler, nous changer et embrasser les épreuves, les persécutions que Dieu laisse dans nos vies. Parce que c'est l'outil qu'il va utiliser pour nous travailler, pour enlever les scories. C'est ça qu'il va faire pour nous humilier. Alors, l'exemple de Nebuchadnezzar, c'est sérieux, c'est important. C'est un modèle de la façon d'opérer notre Seigneur. Le roi ne les empêche pas d'adorer. On ne voit pas ça dans le texte, ne les empêche pas d'adorer leur Dieu en privé. Mais publiquement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'ils se prosternent. Se prosternent et devant les idoles de Babylone.
L'affaire qui est surprenante, c'est de voir que, justement, dans le chapitre 2, quand on dit que le roi a reconnu que c'était Dieu, le Dieu des cieux qui était le seul Dieu, que malgré cette révélation-là, il va demander à ce qu'on se prosterne devant une statue. C'est pour dire comment le cœur de l'homme est
tortu. Il est tortu, c'est ça. Et puis le Seigneur, il est patient, il va continuer à le travailler. C'est notre cas aussi, c'est ce qu'il veut faire avec cette étude-là, je pense. C'est un grand piège, je pense, de leur donner cette possibilité, cette liberté d'adorer leur Dieu chez eux, en privé. Puis il lui dit, ben, en public, il faut confesser que c'est notre Dieu qui est les idoles qui sont les, disons, mes dieux qui sont les dieux. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? En tout cas, moi, j'étais à la Polytechnique à un moment donné, mais je suis chrétien. Mais j'étais tellement gêné, j'étais dans la cafétéria avec tous les élèves, et puis j'ai commandé mon plat. Je n'étais pas à ma honte. Je ne pouvais pas prier. Dans mon cœur, c'est comme, il faut prier. Normalement, c'est ce que tu fais, Isaac. Pourquoi tu ne fais pas là? Mais Dieu a utilisé un autre frère chrétien que je ne connaissais pas, qui est assis juste en face de moi, et je l'ai vu prier. Depuis ce jour-là, j'ai vaincu cette peur-là ou cette crainte-là. Depuis ce jour-là, je vraiment, parce que ce monsieur a pris l'initiative, je l'ai vu prier durant sa nourriture, et puis moi, honteux que je suis, ben, j'étais gêné.
Il m'est arrivé une anecdote la semaine dernière. J'écoute les émissions du matin à Radio-Canada, puis il y a un animateur qui fait la nouvelle réjouissante du jour. Et puis c'est toujours des affaires loufoques, là. C'est des courses de baleines ou n'importe quoi. J'étais n'importe quoi. Puis à un moment donné, il a dit, j'ai testé l'intelligence artificielle pour savoir si Dieu existe. Et j'ai commencé à écouter et j'ai éteint la radio. J'ai dit, je ne peux pas continuer parce qu'il y a un moment donné, bonjour intelligence, est-ce que je t'appelle Monsieur Dieu? Déjà là, je commençais à avoir le... Et là, j'ai leur écrit, j'ai dit, je suis outré que vous vous moquiez de Dieu. J'ai vraiment... Puis ça a été vraiment d'habitude, je dis rien, je laisse faire, j'écoute plus, puis c'est fini. Mais cette fois-là, j'ai vraiment dit, je suis outré et scandalisé de voir que vous utilisez Dieu, vous vous moquez de Dieu. Ouais. En ce que je crois fermement, j'ai marqué, je crois fermement, et c'est pas une nouvelle réjouissance que vous venez de faire. Je respecte le fait que vous ne croyez pas, respectez
les autres, on croit.
Et pour moi, ça a été, ça m'a été la leçon sur Daniel aussi, de dire, marque ton point à toi aussi. Dis ce que tu crois, n'aie pas peur de donner ton...
T'affirmer.
Puis ça a fini là, j'ai pas eu de réponse, rien, je sais pas s'ils l'ont lu, ça, mais moi j'ai dit... Je me suis soulagé le cœur de dire mon point de vue là-dessus. Et puis je pense que de plus en plus, il faut le faire maintenant.
Okay. De plus en plus. En tout cas, ce monsieur-là, je pourrais dire qu'il n'a pas testé la bonne intelligence artificielle, parce que s'il a questionné ChatGPT sur Dieu, là, tu aurais vu, il aurait vu les...
Je n'ai même pas écouté la deuxième question. Est-ce que vous existez vraiment? Je n'ai même pas écouté la deuxième question. J'ai dit, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas savoir ce qu'il a dit.
En tout cas... Il y en a comme ça.
Il faut vraiment faire comme ses frères. Vous pouvez les appeler ses frères. de vraiment se tenir debout, pas seulement dans le cœur, mais dans le...
Mais leur intelligence est obscurcie, n'oubliez pas, là, oui, ces personnes-là. Ils ne peuvent pas voir, comme notre frère disait tantôt, l'évidence est là, mais ils vont le nier, ils ne peuvent pas le voir. L'apôtre Paul parlait des Juifs, il dit, le voile est à rôle, là. Fait que...
Je ne suis pas un Isaac à critiquer quelqu'un qui reste debout, mais on ne devrait pas critiquer quelqu'un qui se met debout aussi, non. Mmh. J'ai vu mon grand-père dimanche passé, puis on a parlé 10 minutes de son temps. Il s'est fait énormément critiquer parce qu'il n'avait plus faire ses réunions cachées ou pas aller en prison. Il avait eu un ministère plus efficace. Mais il s'est mis debout, il est allé en prison. On disait que c'est peut-être pas la manière la plus efficace. Puis même, tu as des gars comme John MacArthur qui était allé en prison durant la COVID. Je crois un critiquer quelqu'un. Que par principe se met debout, qui était à faire face aux conséquences. Même si pour moi, je ne l'aurais peut-être pas fait, je ne suis pas sûr que c'était juste Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient croyants dans les 70 juifs. Mais c'était les seuls qui étaient prêts à le faire, puis j'admire tout ça. Et Dieu a utilisé ça pour garder son peuple jusqu'à temps qu'il retourne en Israël.
Tu glorifies aussi. Hein?
Je pense que Dieu nous place chacun dans un milieu. Et puis le milieu dans lequel on est face à des situations. Il donne partout, on pourrait dire.
Ouais, ouais.
Quand c'est directement devant nous autres de même, là, c'est comme on est en train de dire, là c'est, il ne faut pas se cacher là, dans ce temps-là. Mais il faut exercer le respect, mais dire les vraies choses.
Le respect est très important. J'ai vu Daniel avec tout. Oh, ouais, il respecte le roi. Il va faire son point, mais il a utilisé les termes très courtois pour s'adresser. Il respecte.
La conversation est très pertinente parce que je vois ce qui se passe au travail. Je suis sûr que je ne suis pas seul. Mais les politiques DEI, on veut tout être plus divers, on veut tout être équitable, on veut tout être tout ça.
Inclusif.
Mais quand tu lis les 50 pages qui suivent par la suite, c'est une attaque contre le christianisme et contre les valeurs chrétiennes. C'est ça que c'est, ces politiques-là. J'ai vu au travail. Là, tu oublies, j'allais signer sur les systèmes de Workday. C'est quoi que tu fais, comme croyant? C'est réel, là. C'est du concret. Au Québec, au Canada, notre CEO, il a dit non, t'es croyant. Mais il n'est plus là à partir du 1er novembre. Qu'est-ce qu'on fait? Mon frère, il a vécu la même chose dans son entreprise. Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe ou on ne signe pas? Est-ce qu'on est prêt à subir les conséquences de perdre nos jobs? Les grosses compagnies cotées à bourse, ils ont toutes des comités Reputational Legal Risk Committee. Là. C'est tout là. C'est tout rempli d'agents excessivement woke. Puis ils mettent des politiques comme ça. Là. Moi, je me questionne. J'ai une famille, j'ai une hypothèque. Est-ce que je signe ou je ne signe pas? Est-ce que je suis convaincu que ce document-là va être dans Workday? Parce qu'il voit exactement qui signe, qui ne signe pas. Est-ce que je signe ou je ne signe pas?
C'est un test. C'est une parenthèse pour nous.
On a été épargnés depuis 10 ans.
Oui. Ça s'en vient là, ça s'en vient.
Est-ce qu'on signe comme l'Église? Est-ce qu'on signe pas comme l'Église? La loi sur la laïcité du Parti québécois, c'est terrible. Est-ce qu'on signe ou on ne signe pas? On aura des positions à faire. Puis je lis, il y avait un article dans le journal cette semaine, une 34e. J'essaie de justifier les femmes chrétiennes. On ne devrait même pas se soucier de ce que le monde pense de nous à ce point-ci.
C'est
parce
ça.
Que nos valeurs sont tellement différentes.
C'est ça.
Est-ce qu'on signe ou on ne signe pas? Je ne sais pas. Je vais faire face à cette décision. Je suis convaincu dans les 3, 4, 5 prochaines années. Est-ce que je rentre dans Workday et je dis j'accepte la politique d'hier? D'hier, c'est beau. C'est trop beau.
C'est bien beau.
C'est
bien beau.
C'est
bien
des valeurs chrétiennes.
Ouais,
caché. Ouais. Caché. Caché. Caché.
C'est quoi DI?
C'est Diversity et Equity. Mais les 50 pages qui suivent, ça n'a aucun rapport avec DI.
Quand tu es face à ça, tu n'as pas le choix de ne pas signer. Il faut que tu acceptes les conséquences. Ouais. Mais il y a aussi cette idée-là que des fois, tu peux éviter puis ne pas. Comme j'ai donné l'exemple de Jean, là, que lui, là, il fallait signer comme quoi les pétitions. Pour les homosexuels, puis tout ça. Il y a une semaine où c'était ça, tu sais. Fait que là, il y avait un ordinateur à l'entrée de la cafétéria.
Aïe,
puis, signe pas ton nom pour pas que personne puisse voir. Il fallait que tu tapes ton nom. Quoi. Fait que Jean, il amenait son lunch cette semaine-là, tu sais. Il voulait pas passer par là, tu sais. Fait qu'il y a un certain discernement, mais quand t'as pas le choix, t'as le temps de dire non, tu sais. À un moment donné, il faut faire vivre sa famille. Mais quand tu es face à une situation comme si tu es obligé, là, ben là tu n'as pas le choix.
Mais c'est drôle, hein? Toi, tu respectes
Pourquoi ils ne peuvent pas respecter notre...
Il y a une puissance en arrière qui est plus... Il y a une puissance en arrière. C'est pas eux, mais tout. C'est pas eux. Il y a plus que ça en arrière. C'est les forces. C'est les forces du mal. C'est cette tension qu'on a depuis la création.
Je dis que si tu es un frère dans 5 ans, tu as accès à te mettre sur ces comités-là au travail. Tu as accès à des promotions. Tu devrais dire oui. Parce que si tu es capable de mettre ton pied à terre et dire non à ces politiques-là... Yeah. Tous les chrétiens qui travaillent là vont en bénéficier. Oui. C'est une opportunité de joindre le Reputational Legal Risk Committee de ton employeur. Tu devrais dire oui. C'est une opportunité de gérer une région.
Mais est-ce que ce comité-là est ouvert à tous? Bonne discussion, mais n'oublie pas, mes frères et sœurs. Le proverbe nous dit, là, le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main du Seigneur de l'Éternel. Il fait ce qu'il veut avec. Là. Comprends-tu ce que je veux dire avec eux? Et ce que Dieu nous invite à faire, c'est de prier. N'oubliez pas, on n'aura pas la solution comme ça, mais il va nous diriger, il va nous diriger dans la prière, il va nous diriger.
C'est des foyers, ménages chrétiens, je parle des organisations chrétiennes, je parle des églises. Quand tu es à côté ici sur le budget, là, c'est dur de prendre des décisions de principe. Mais quand tu as de l'oxygène, tu es capable de dire, OK, on peut prendre une pause de 6 mois-là, bouger un peu, que ce soit un bien comme un autre, que ce soit une organisation chrétienne. Mm. Mais quand tu es lourdement endetté, tu as beaucoup de factures à payer, ça devient difficile de prendre des décisions.
Je pense aussi que dans notre relation de prière avec Dieu, il va nous convaincre de toutes ces choses-là. Il va nous convaincre de toutes ces choses-là. Les priorités vont avoir changé. Je pense que Dieu va faire tout ça dans une relation de prière. On demande au Seigneur, on est sérieux dans ce qu'on fait, là, parce qu'on fait face à l'ennemi. Là. Puis Dieu va nous diriger, il va nous dire quoi faire. Et puis, si aujourd'hui, j'ai de la misère avec mes priorités, il va m'aider. Je pense que tout le monde ici peut parler comment Dieu nous a travaillé par rapport à nos priorités. Et il va le faire, il va continuer à le faire, peu importe la situation, peu importe la circonstance. Daniel est là. Daniel, c'est l'exemple, c'est le message, c'est le modèle biblique que Dieu nous donne par rapport à 2 jeunes, à 3 jeunes, 4 jeunes. 4 jeunes qui vivent les pires persécutions, je pourrais dire. Leur vie en dépend de cela. Leur vie en dépend. Ils vont choisir, nous allons voir, vous l'avez lu, et ils vont choisir de ne pas se prosterner devant la statue. Je peux dans mon cœur, je suis quand même debout, mais pour le monde, on a déjà entendu ça, et puis ils passeraient pour des hypocrites, parce qu'aux yeux du monde, ils ne sont pas conformes avec leurs convictions. Dans les versets 3 et 7, on voit comment la scène, c'est pressant. On a lu toute panoplie de personnes importantes qui sont là. Hein? Versets 3 et 7, tout le monde est là, les grands, les gouverneurs, les hommes de loi et tout cela. Là. On imagine cette scène-là où tout le monde se prosterne, sauf 3 jeunes. Imaginez, là, dans une vallée, là, le Dura, c'est ça, le Dura, c'est là que sa scène se passe. La statue est élevée, puis... Le verset 7, il parle de tout le monde, toutes les nations sont là. Puis là, tout le monde est à genoux, sauf 3. Ça attire le regard, n'est-ce pas? Ça prend du courage. Mais il faut dire aussi, si on prend la majorité des Juifs, on sait, il y a toujours un petit reste, on l'avait dit au départ. Pour les exilés, la majorité de ces Juifs exilés, se prosterner devant des idoles, c'est pas une chose difficile à faire. Parce qu'ils l'ont fait toute leur vie. Hein? C'est pour ça qu'ils sont là, anyways. C'est pour ça qu'ils sont rendus en exil. Parce qu'ils se sont corrompus. Ils se sont corrompus. Ils ont abandonné le vrai Dieu. Puis lisez les rois, là. Vous voyez les actions du peuple d'Israël. Les rois les conduisent à faire des choses absurdes et obscènes. Fait que peut-être pour eux, c'est la majorité de ces juifs-là qui sont là, c'est pas un problème parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais avec ces 3 jeunes amis-là, ces 3 jeunes hommes, ils ne veulent pas obéir à la puissance humaine. Mais ils veulent obéir à une puissance supérieure à celle des hommes. Ils sont convaincus, que Dieu, la puissance de Dieu est meilleure. On le voit dans les actes aussi, où les apôtres sont confrontés à la mort, là, et la persécution. On dit, à qui dois-je obéir? À Dieu ou aux hommes? Ça se répète dans toute l'histoire de l'Église, là.
L'éducation chrétienne est vraiment importante. Et moi, j'en pouvais beaucoup parler de devenir un auteur, parce qu'à moi-là, c'est excellent. Mm-hmm. Mais Shadrach, Meshach et Abednego comprenaient la loi de Dieu. Mm-hmm. La loi de Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
C'est ça. Amen. Amen. Amen.
Puis ça, c'est une éducation sur la loi de Dieu. Mm-hmm. Puis il faut le donner à nos enfants. Puis c'est pour ça que des programmes comme à moi-là, c'est énormément de travail pour les bénévoles. Mm-hmm. C'est tellement important là, d'envoyer tes enfants, puis qu'ils viennent à 9h. Pour l'éducation, qu'ils apprennent la loi de Dieu, qu'ils apprennent la Bible par cœur, parce que c'est pas juste une question d'obéir à la loi de Dieu. Dieu veut pas qu'on ait d'autres dieux. Je pense que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu cette éducation-là quand ils étaient jeunes, puis ils comprenaient l'importance de respecter le premier commandement de Dieu.
Amen. Alors, même si on se le rend pas compte, la minute qu'on obéit à un homme, on désobéit à Dieu, on place cet homme-là au-dessus de Dieu, au-dessus de Dieu. C'est inconscient, mais c'est la réalité. Les compagnons de Daniel sont les seuls à refuser de se conformer, les autres, les seuls à être différents, même si cela leur coûte la mort dans une ardente fournaise. Le seul choix qui s'offre à eux, c'est de céder, faire couler comme tout le monde autour d'eux, ou tenir ferme dans leurs convictions et perdre tout, même leur vie. C'est le seul choix qu'ils ont. Mourir ou bien faire comme tous les autres. Et devant un choix si difficile, qu'est-ce qu'ils vont faire les trois jeunes? On l'avait lu. Et les versets 8 à 18 nous le disent. Ils ne se sont pas souciés des circonstances. Pas compliqué. Des conséquences, je veux dire. Les conséquences, ils ne dévient pas d'un pouce de la ligne de conduite qu'ils se sont tracés. Et la force irrésistible du roi se heurte à trois forces inébranlables. On ne peut pas les convaincre. Ils sont ancrés dans cette conviction-là. Puis le roi a beau être le plus puissant de la terre, mais eux, ils disent non, non, on ne bouge pas dans nos convictions. La scène se décrit comme suit. L'atmosphère est tendue, parce que là, il y a une édit du roi, le héros qui crie, voilà ce qui va arriver, avec toutes les menaces. Hein? La foule est immense, excitée et impatiente de voir qu'est-ce qui va se passer. L'orchestre se met en place à jouer. C'est de la pression. Imaginez ça pour ces jeunes-là qui décident de ne pas obéir à l'ordre du roi. Toute la multitude se posterna et les trois hommes restent debout, ce qui attire tous les regards sur eux. Les Chaldéens, qu'est-ce qu'ils font faire? Ces Chaldéens qui sont jaloux, vous vous rappelez, ils se mettent à exposer leur haine. Et ils vont rapporter ça au roi. Hein? Ils vont rapporter ça au roi. Et il va dire, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas. Point tes statues, les statues que tu as élevées. Ça, c'est clairement indiqué dans le verset 12. Petite question. Est-ce que vous pensez que le roi faisait partie de l'adoration? Qui l'a demandé? Il ne pouvait pas s'adorer, c'est ça? Mais s'il faisait l'adoration... Alors, il demande à ce qu'on adore la statue, lui, il ne le faisait pas. Et puis les autres étaient là pour voir qui avait eu le courage de dire non. Ou bien, il n'était pas là. Et je pense aussi que c'est une forme d'hypocrisie aussi. Peut-être que si, comme vous l'avez dit, c'est lui. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça, comme c'était lui, mais c'est vraiment lui. C'est comme si tu appelles quelqu'un à adorer ce statut-là, mais tu devrais toi aussi l'adorer. C'est comme si on invite quelqu'un à adorer Dieu, et puis nous, on dit, il faut adorer Dieu, et puis nous, en tant que chrétiens, on ne le fait pas. Puis je pense que c'était ça ma pensée. Je trouvais qu'il était dans son attitude un peu hypocrite. Il n'était pas sincère dans son adoration parce qu'il invite les gens à l'adorer, il fait la pression pour qu'on aille l'adorer, et lui, il n'adore même pas. Après le rapport des Chaldéens, le roi les interroge et leur demande, il leur donne une deuxième chance. Vous l'avez vu, là?
Oui,
il leur donne une deuxième chance. Oui, il leur donne une deuxième chance, là. Et vous n'avez pas obéi, hein? Vous n'êtes pas prosterné, là. Est-ce que c'est vrai, ça? Il pose une petite question, il les interroge. Peut-être une petite pression qu'il met là. C'est le roi, tu es devant le roi là qui vient d'interroger. Il devrait penser comme ça, mais on va le voir plus tard, c'est dans sa folie. Il veut les exterminer. Alors, Le roi les interroge, il leur donne une deuxième chance de se conformer. Mais il n'est pas question, les jeunes gens, dans le verset 16 à 18, j'aimerais que quelqu'un relise ces textes-là pour moi, la réponse de ces jeunes-là, verset 16 à 18.
Voici notre Dieu que nous savons peut nous délivrer de la troupe des servantes et nous délivrera de la ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas le statut d'or.
Avant de répondre, il dit, pas qu'il... on ne répond même pas.
Je peux lire la version du semeur. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de tes mains au roi.
Ils sont convaincus. Ils sont convaincus de la puissance de leur Dieu. Et il peut. Mais le verset suivant nous dit quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Si jamais Dieu ne délivre pas, qu'est-ce qu'il dit? Sinon, sache au roi que même si la délivrance n'est pas là, on ne va pas se prosterner. Vraiment sérieux dans leur conviction. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur du roi avec ces menaces-là. Et ils ne se défendent pas. Ils sont inébranlables. Et ils connaissent la puissance de leur Dieu. Mais ils reconnaissent aussi et respectent sa souveraineté. On a parlé de cela au début de ce cours. La souveraineté de Dieu qui est tout le long de l'histoire, on voit la souveraineté de Dieu. Puis pour eux, ils prient, oui, ils se font confiance au Seigneur. Dieu peut, il a le pouvoir, il est tout puissant de les délivrer. Mais s'il en décide autrement, ce n'est pas grave. Finis ta pensée, elle va plus loin.
Qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils sont délivrés.
Oui, parce que même dans la mort, même dans la mort, c'est une victoire pour eux. C'est une victoire pour eux de rencontrer leur Dieu, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une logique que nous, les chrétiens, on devrait toujours avoir en tête, cette logique-là. Peu importe ce qui peut nous arriver, même si c'est la mort aussi, même si la mort arrive, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Mais c'est une victoire pour nous quand on meurt, n'est-ce pas? Fait que, ils sont conscients de la puissance de leur Dieu. Son puissance, c'est un Dieu tout puissant qui peut les délivrer, il a la puissance de les délivrer. Mais ils sont conscients aussi de sa souveraineté. S'ils décident autrement, ce n'est pas grave. Mais peu importe ce qui va arriver, ils ne se prosterneront pas devant la statue.
Je pense que c'est un modèle pour nous dans la prière aussi. Grâce à Dieu, on sait que Dieu peut nous délivrer. On sait qu'il va nous délivrer.
Oui.
Et on sait que ta volonté soit faite.
Amen. 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 Surtout dans nos prières, quand on est malade, disons, qu'on cherche un travail. Je ne sais pas, peu importe la nature de nos prières, il faut toujours se rappeler que Dieu est souverain. Il y a un plan que peut-être qu'on ne sait même pas. On ne sait même pas. Et la chose qu'on demande, mais lui, c'est pas ça qu'il veut pour nous. C'est pas ça qu'il veut pour nous. Et même si la délivrance ne se produit pas, nous ne te servirons pas. C'est ce qu'ils disent, ces amis-là. Ils sont très conscients de leur Dieu, de la puissance, du pouvoir de leur Dieu. Sadrach, Meshach et Abednego restent fermes dans leur conviction et le roi, il reste ferme dans sa folie. Il ne bouge pas. Il veut les mettre à mort. Il veut les mettre à mort. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez l'histoire. Il les fait jeter dans une fournaise. Comme si la fournaise n'était pas chaude assez, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander qu'on la réchauffe. Pourquoi plus? Tu les mets déjà. Mais on voit que la chaleur est intense. La chaleur est intense, là. Des fois, c'est insupportable. Puis là, moi, c'est ce qui me passait dans la tête quand c'est l'image que j'ai de fournaise. Hein. Puis là, le gars, il dit de mettre encore 7 fois plus que la normale pour s'assurer qu'ils vont mourir. Ça, c'est garanti. Il veut en finir avec eux. C'est un roi méchant. C'est un roi vraiment méchant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est le Dieu qu'on a. Quelle folie! Il est prêt, comme ma soeur disait tantôt, il est prêt à les faire mourir. C'est qui ces gars-là? C'est le témoignage qu'il a donné pour eux dans le chapitre 1er, là, à la fin. Là. C'était les gars qui ont répondu à toutes les questions sur les objets dans tous les domaines. Là. C'était les plus sages, les plus savants là, dans son empire.
Ben, je pense que c'était la raison pour laquelle il l'avait fait. Il voulait s'assurer que le message passe.
Hein? Qu'il était le roi?
Que, quand même, vous êtes bien brillant, vous êtes bien fin, là, c'est moi qui mène, c'est moi le roi.
Ah, exact.
Hein?
Ouais.
C'est vous, quand même que vous arrivez à faire toutes sortes de choses extraordinaires, fait qu'on va s'assurer que ma domination va être totale.
Mais je comprends mal son raisonnement, parce que il se met à il était entouré de tous ces hommes sages-là, pourquoi? De tous ces hommes sages-là, il va les consulter pour prendre ses décisions. C'est eux, ses conseillers. Lui, il est meilleur que tous ses meilleurs conseillers, ses astrologues, etc.
J'ai eu le dernier mot.
Ouais, je vais mettre à mort. Il a vu ma compte. C'est de la folie. C'est finalement de la folie. Et c'est l'homme, hein? C'est l'homme.
Je pense pas que, tu as parlé de sa première conversion. Je pense que sa réelle conversion arrive dans le chapitre 4. Quand Daniel l'appelle à sa repentance, finalement, le Seigneur peut être touché son cœur encore. Daniel, je pense, dans le chapitre 4, je me rappelle beaucoup, là, mais je pense qu'il faut que tu détournes de tes voix méchantes. Mm-hmm. Il avait un cœur méchant, géré par ses émotions méchantes. Il était le plus fort.
On parlait de processus, hein? On parlait de processus. Dieu est patient. Il prend le temps de l'écraser pour qu'il s'humilie, pour qu'il se répande. C'est ce qu'il fait pour nous.
Il avait appelé déjà Nebuchadnezzar
mon serviteur. Je vais m'en servir. Waouh. Lorsque l'homme se livre, donne libre cours à sa colère, on dit à son orgueil aussi, son bon sens l'abandonne. Il ne peut pas prendre des décisions normales, parce que c'est pas normal que tu te débarrasses de ces hommes-là qui te donnent des conseils pour peut-être mener tes guerres, etc. Mais il veut s'en débarrasser parce qu'il est en colère, il est furieux. Et moi, quand je suis en colère, je perds mes mots. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais j'ai appris de tout cela. Une fois, j'étais tellement en colère, là. Et je ne dirai pas pourquoi. Juste pour quelques secondes, là, je suis tombé dans les vapes. Et puis, depuis ce temps-là, là, je gère ma colère. Parce que je ne voulais pas partir. Non, tu n'avais pas raison de réagir comme ça. Puis, mais ce Seigneur, il m'a donné une dernière chance. Une deuxième chance. Mais je pense que c'est quelque chose que nous devons travailler si nous avons ce problème-là. Les trois jeunes sont attachés par les hommes les plus vigoureux. Hein? Il va s'assurer que ces hommes-là les attachent comme il faut, qu'ils ne veulent pas... Tu vas le jeter dans une fournaise. Cette fois, chauffer. Ils vont aller où? Ils vont se promener. Ton bon sens t'abandonne quand tu es en colère comme ça. Là, un peu à distance, il veut les lancer, je ne sais pas.
Ça va être ta classe. Vladimir Poutine, c'est la même affaire qu'aujourd'hui. Quand tu es en haut de la chaîne, c'est un autocrate, c'est un dictateur. Si ton fun, tu trouves que tu es fort. C'est dans le cœur de nous tous. Tu penses que c'est le seul, mais prends ton petit frère, tu fais la même affaire avec nos enfants. Le plus vous trouvez que tu es fort, que tu as vraiment le but.
Les courtisans du roi s'attendent à entendre des cris et de voir des cadavres calcinés, n'est-ce pas? Yeah, ils sont prêts à applaudir, là, qu'il va avoir ces trois gars-là qui sont calcinés, et yeah, ils vont danser. Waouh, les vêtements et tout, là. Il va voir des cadavres calcinés. Ce ne sont pas celui des Hébreux, là. C'est leur propre chef qui va être calciné. Le roi est saisi de frayeur et interroge ses conseillers. Combien en avez-vous mis, hein? Vous avez jeté combien dans la fournaise? N'était-il pas lié? Ça le dépasse. Comment se fait-il que je m'en vais? Je vois 4 personnes marcher librement. C'est toute une constatation, ça.
Moi, ce qui me fait rire, dans cette situation-là, ils sont attachés, tous leurs vêtements sont en fibres naturelles.
Okay.
Donc, ça brûle instantanément. Les cordes sont en fibres naturelles aussi. Pas de cordes. La chaleur, elles ont peut-être brûlé, mais eux ne sont pas du tout affectés avec leurs vêtements. Puis ils en ont mis des vêtements pour que ça brûle plus, probablement plus vite aussi. Alors, tu dis, petit clin d'œil du Seigneur.
Oui, mais regarde, quand ils font des tests, même l'odeur, Ça, c'est du naturel. On se trompe pas, là. On ne se trompe pas. Quand il regarde Nebuchadnezzar, il voit quatre personnes qui marchent librement et la quatrième ressemble à un fils des dieux. C'est un visage qu'il ne connaît pas, mais dans sa tête, il voit, il s'imagine un fils des dieux. Ce texte-là est interprété par certains théologiens comme quoi c'est une manifestation vraiment que Jésus, c'était la préincarnation de Jésus-Christ qui était là avec eux dans la fournaise. Il y a aussi plein d'autres textes bibliques où il parle de l'ange, du Seigneur, etc. Ils pensent que ça, c'était Jésus-Christ lui-même qui était avec eux dans la fournaise. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est juste que c'est un quatrième qui était évidemment là par Dieu. Mm-hmm. Est-ce que c'est un ange?
On ne sait pas. On ne sait pas.
On va répondre à cette question-là. On va le savoir aussi.
D'accord.
Ils étaient quatre.
C'est ça
qui est important. Pourquoi qu'il y avait une quatrième personne là?
C'était
à quelque part, là, c'est ça.
Mais
Dieu envoie ses anges.
Pourquoi que cette personne
n'était là? Il parlait
de quoi?
Dieu envoie ses anges pour protéger ses
filles. C'est biblique. C'est biblique. Hébreu est clair là-dedans.
Protéger les. Eux, ils l'interprètent selon ce qu'ils pensent et croient. Mm-hmm. Et on ne sait pas.
Okay. Je respecte là. Et puis, l'idée, c'était pas vous faire interpréter le texte. C'est juste une discussion. OK. Une discussion. Est-ce que vous pensez que Shadrach, Meshach et Abednego étaient conscients de cette présence-là?
Moi, je pense en tout cas que si c'est écrit « ressemblait à un fils de Dieu », c'est parce qu'il voulait, le Seigneur voulait nous amener à avoir une pensée pour Jésus. Ça, c'est certain.
Théophanie.
Oui, il y a la théophanie tout dans l'Ancien Testament où on comprend que Dieu fait des apparitions.
Et puis, il y a aussi la fidélité de Dieu. Il a dit dans Ésaïe, si tu marches dans le feu, tu es plus.
C'est le prochain texte. C'est, ce que c'est tout ce que je peux répondre à tout ça. Et puis, je suis content que vous n'ayez pas que vous n'avez pas eu d'opinion par rapport à ça, c'est bien correct. Mais ce qui est écrit, c'est ça. Si tu traverses dans Isaïe, il dit, si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça, c'est une promesse de l'Éternel à son peuple. Comment qu'il le fait? On ne sait pas, mais il le fait. Il le fait. Peut-être la fournaise ou bien les fleuves que vous traversez, c'est peut-être pas physique comme ça, mais nous traversons tous des fournaises. Nous sommes tous des fleuves en tout cas, on le sait que Dieu nous délivre de plein de choses, et puis c'est sa promesse, sa fidélité, c'est pour nous, c'est une cuirasse. Dans tout l'Ancien Testament, on voit Dieu intervenir de façon miraculeuse. Et moi, personnellement, c'est ma croyance. Je crois que Dieu continue d'intervenir de façon miraculeuse dans ce siècle aussi. Dieu a permis la persécution pour faire éclater sa gloire, n'est-ce pas? Pour éclater sa gloire. Petite question, pour vous faire participer. Au soir de cet événement-là, On se met en Babylone, là. Tout ça s'est passé. La statue est érigée. Tout le monde se prosterne, sauf ces trois gars-là. Ils sont jetés dans la fournaise. Puis là, ils sont sortis intacts. Au soir de cet événement-là, selon vous, qu'est-ce qui fait le sujet des conversations à Babylone? L'adoration de la statue ou la délivrance des trois jeunes?
La délivrance.
Qu'est-ce qui se passe avec le roi? Parce qu'il change, ses paroles ont complètement basculé. Là. Au début de la journée, c'était adorer la statue, puis maintenant, oups. Il parle de béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, ces trois-là qu'il avait mis dans le.
La gloire de Dieu.
Et il menace même ceux qui.
La gloire de Dieu. Dieu voulait faire éclater sa gloire. C'est comme ça que je vois. Il veut faire éclater, il permet cela. Puis tu penses que tu vas dominer l'actualité, c'est toi, on va parler de toi, de tes dieux, là. Oublie ça, c'est tout le monde parle de là.
Je pense que le cœur, tellement dur, tellement dur. Regarde la femme de Charlie Kirk qui a pardonné le tueur. Puis je rentre au bureau, tout le monde dit ça se peut pas qu'elle ait pardonné le tueur. C'est juste de la folie pour faire de l'argent. Fait que tu sais, quand le cœur il est dur et il veut pas, il va pas changer malgré les signes miracles. Ils l'ont pas fait pour Jésus comme mon père a dit. Fait que tu sais, bon, moi je pense qu'il y avait bien des jaloux qui ne veulent pas de ces trois-là.
Absolument, absolument. Mais oui, ben oui, il était les étendants des Bénéville. Fait que il voulait pas ça. Il voulait pas ça. Mais Dieu est en contrôle. Il est souverain. Il permet cette persécution. Il les délivre pour que sa gloire éclate. Ils n'ont pas jeté dans la fournaise comme il faut.
Explication fou, mais
on refuse, quand on refuse.
Il y en a qui disent qu'il est tout un montage qui n'est pas mort. Tu sais, c'est le monde qui ne connaisse pas Christ, là, ils vont toujours chercher des explications qui sont fous.
Oui. Je répète le témoignage d'un... Excuse-moi, ma soeur, je devais donner la parole tantôt. D'un missionnaire, je pense que c'est M. Brian Crook, je pense, qui a été... auprès des îles du peuple abeille. Et puis, il disait comment il y a un missionnaire qui est venu, qui prêchait sur 1 Corinthiens 13. L'amour. Puis, quand il a fait son exposé sur l'amour, 1 Corinthiens 13, les peuples dans le village disent, c'est pas impossible. C'est impossible ce que tu dis. C'est juste vous autres qui êtes capables de faire ça. 1 Corinthiens 13. Et c'est vrai, quand on regarde 1 Corinthiens 13, là, ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu.
Mais encore là, il y avait raison de dire que c'est impossible, parce qu'on s'enligne sur ça, mais...
On est loin. Mais c'est le standard de Dieu. Oui. C'est le standard de Dieu. Et Dieu peut nous donner des victoires ici, à droite et à gauche. On le sait. Dieu nous donne des victoires à droite et à gauche. Nebuchadnezzar est obligé une fois de plus de rendre hommage au vrai Dieu. Son cœur est touché, oui, mais il n'a pas changé.
Pas encore.
La suite est à venir. Là. Son cœur est touché, oui.
Ouais.
Une semence, oui. Une autre semence. Mais il n'est pas changé. Et lisons le verset 29. S'il te plaît.
Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidéramment contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et mort. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui.
Est-ce que c'est la réaction de quelqu'un qui a compris? Il n'a pas encore compris. Son cœur n'a pas encore été touché par l'évangile, la grâce. Il n'a pas compris ça. Oui. C'est ça. Et puis, il envoie les gens à faire ce qu'il a toujours fait. Il continue à faire. Il continue à faire ce qu'il...
Avant la grâce, vient la conviction du péché.
Oui.
Et c'est là le plus gros problème de Nebuchadnezzar. C'était sur la conviction de son propre péché.
On voit la façon qu'il fait référence au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est leur Dieu.
Leur Dieu, ouais,
c'est ça. Leur Dieu est considéré parmi plusieurs dieux. Il n'est pas écarté d'autres dieux.
Pas encore. Mais encore là, on voit la folie. Tu vois qu'il est top, mais tu ne veux pas te prosterner devant lui. Tu es convaincu qu'il est le plus grand, le plus puissant, et puis toi, tu veux te... confronté avec lui, à la confrontation avec lui. Ben, c'est la folie de l'homme. L'homme ne parviendra pas à la foi par l'épée. Les croisades nous en parlent. Et où les menaces. On ne va pas gagner quelqu'un par la menace, et puis c'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas son but. C'est apporter la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu et Dieu, par son Saint-Esprit, qui va convaincre les cœurs. C'est lui qui va convaincre les cœurs. Nous, on n'a que des vaisseaux qui vont annoncer, qui vont semer la semence. Et c'est lui qui fait pousser. Il faut se le répéter. Et c'est sûr qu'il y a, au niveau du gouvernement, certains gouvernements, je pense les musulmans, c'est ça? Les musulmans, c'est par la force, là. Ils pensent pouvoir tu mets avec l'épée, tu vas forcer les gens à, non, mais, à se convertir. Mais, à... Ouais, l'Église catholique.
C'est ça. Même pour les croisades qui sont faites au Québec, c'était pas par la foi que les gens croyaient, là, c'était non.
Pas la force. Pas la force, pas la force. Et je vous dis, ils veulent rien savoir, c'est ça? Ils veulent rien savoir. Ça ne les excuse pas, mais ce n'est pas la façon d'annoncer l'Évangile. Et son cœur, quand ton cœur n'est pas touché, on risque de réagir comme ça. Conclusion. La délivrance apportée à Shadrach, Meshach et Abednego nous remplit d'adoration pour Dieu. C'est sûr, on voit notre Dieu en action. Il délivre. Gloire à Dieu, on l'adore. Mais je crois que le courage doit nous enseigner aussi sur notre position. Je pense que quelqu'un l'avait dit tantôt, lorsque la culture veut nous imposer des valeurs contraires à celles de Dieu, qu'on puisse se positionner par rapport à notre foi. Pour toute fois, la leçon est là. Oui, mon frère.
Ouais. 1 Pierre 4, verset 12. Mais, chers amis, vous avez été plongés dans une fournaise qui éprouve votre foi. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivez quelque chose d'anormal.
Non, il est tellement pile sur. Je regarde vos articles qui ont été écrits sur les femmes chrétiennes cette semaine. C'est de la poubelle. Puis même l'article de la chrétienne qui essaie de justifier. Notre point de vue doit être celui de la Bible.
Amen.
On doit voir, notre risque de voir nos valeurs mondiales. C'est pas qu'est-ce que le monde va penser de nous. C'est pas assez de dire, oh non, mais on n'est pas si pire que ça.
Non, mais ça.
Non, notre point de vue, c'est un point de vue qui est façonné par notre lecture des Écritures, notre compréhension de ce qui est écrit. Il y a du monde qui ne va pas nous aimer pour ça, puis tant pis.
Tant pis.
Il faut se remettre ensemble aussi.
Mais attention, frère, est-ce que notre motivation, c'est l'orgueil ou l'amour?
Notre motivation, c'est d'obéir.
Et nous sommes dans un monde où, comme on l'avait dit tantôt, ça semble s'enliser vers ça, s'enligner vers cela. Est-ce qu'on aura le courage? Est-ce qu'on a le courage? Ça devrait peut-être être notre prière de Dieu, de demander au Seigneur de nous préparer à cela, de nous rendre déjà ferme, d'avoir une conviction ferme, de rester attaché à la parole, parce que la parole, c'est la vérité. Et donc, je finis avec ce texte-là de 1 Pierre, peut-être qui fait suite à ce que tu avais dit, mon frère. Il dit dans 1 Pierre 5, verset 8 à 11, Pierre parle beaucoup de cela. Il dit, soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Comme Daniel, comme ses frères. Dieu va le faire. Dieu va le faire. À lui soit cette puissance-là, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous donne cette conviction-là, qu'il nous façonne, qu'on puisse avoir cette ferme, d'être ferme dans nos positions pour lui.
Il y a deux versets que j'aimerais partager.
Oui, allez, mon frère.
Qui dit dans Éphésiens 3, 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. »
Amen.
Et l'autre verset dans Hébreux, quand ça dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. »
Amen. Restons ancrés sur cette parole-là, ces promesses-là. Apprenons à connaître notre Dieu encore plus. Qu'est-ce que ça a fait pour ces jeunes-là qui ont appris les Écritures? Bien. Sondons les Écritures, entendons-nous, fait bien là. Et puis, que le Seigneur nous aide cette semaine et dans les jours à venir à garder nos valeurs chrétiennes, être prêts à se défendre, sachant que lui, il est là. Il est là. Dans votre autre. Paul, peux-tu prier pour terminer, s'il te plaît, Paul?